d'entrée de jeu avant la pause. Est-ce que vous êtes des chokeux dans le sport parce que il y a un chercheur, un scientifique ici au Québec, Vincent Huard-Pelletier, qui a fait des recherches à l'effet des joueurs qui ont de la difficulté à performer lorsque l'enjeu est important dans le sport. C'est un article de Jean-Nicolas Blanchet dans le Journal de Québec de ce matin. Et on a Vincent Huard-Pelletier au bout du fil. Monsieur Huard-Pelletier, merci beaucoup pour votre présence ce matin.
Ben, merci beaucoup. Bon matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être avec vous.
Avez-vous passé beaucoup de temps à Toronto dans le cadre de cette étude?
C'est sûr qu'on se déplace, là. On se déplace aux quatre coins du Québec, mais aussi un petit peu en Ontario. Mais la beauté avec le genre d'études que je mène, c'est que les cueillettes peuvent se faire aussi en grande partie à distance. Mm-hmm. Fait que non, je suis pas con, ça t'amène dans mes valises non plus.
Donc, vous n'êtes pas allé voir Mitch Marner?
Non, non. Mais si quelqu'un a des billets pour moi, je serais intéressé par contre.
C'est bon. Hey, pour commencer à la base, là, le choking, c'est quoi? C'est quoi choker dans le sport?
Oui. Ben ça, je vous dirais que pendant plusieurs années, ça a été une définition qui n'était pas évidente à avoir. Là. Ben, le choking, en français, là, on dit écroulement sous pression, c'est une baisse significative de performance due au stress. Et pas à un manque de motivation ou à des blessures, par exemple.
Ouais, c'est ça. Donc, normalement, je ferais en moyenne 2 points par match dans ma ligue de Bantam 2A, mais quand j'arrive en finale d'un tournoi, on me voit pas pantoute sur la glace.
Ouais, exactement. C'est pas parce que je veux pas produire, puis c'est pas parce que je suis usé, c'est vraiment à cause du stress.
Est-ce qu'on en voit de plus en plus? On parle souvent du fait que nos jeunes de nos jours sont donc bien anxieux. Puis est-ce que vous sentez que ça s'est transposé aussi dans le sport et donc dans le fameux choking?
Ben, mon hypothèse, ce serait que oui. La mesure du choking existe depuis vraiment pas longtemps. Fait que c'est dur d'avoir des conclusions sur l'évolution dans le temps. Mais avec de plus en plus de jeunes qui ont des diagnostics d'anxiété, ben oui, effectivement, là, je pense que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Puis avec l'importance qu'on donne aux performances sportives chez les jeunes, ben ça vient renforcer le tout.
Comment ça se comporte une personne justement qui a des difficultés à performer dans les moments importants? Est-ce que ça se replie sur soi-même? Est-ce que ça pogne les nerfs? T'sais, comment justement cette personne-là se comporte quand elle arrive en situation là, où l'anxiété est le moment trop important pour elle?
Ben ça peut se transposer de 2-3 façons différentes. Oui, se replier sur soi-même. Ça, c'est les jeunes qui sont beaucoup dans leur tête, qui essaient d'intellectualiser leur sport, qui se demandent toujours, est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que, par exemple, au hockey, mon bâton est mis à bonne place? Ils sont vraiment dans les détails, puis ça les empêche vraiment d'exécuter dans le moment. Il y en a d'autres que ça va être plus au niveau des distractions externes. Donc, ce qui se dit dans les estrades, même ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, dans les journaux. L'entraîneur de l'autre équipe, les joueurs, ce qu'ils me disent. Donc, tout ça, c'est vrai aussi. Puis, il y a seulement aussi des moments où est-ce que le joueur va être surchargé d'émotions, où est-ce que ça peut sortir, comme vous dites, là, en colère, en tristesse, à cause que ses stratégies d'adaptation sont pas adaptées. Là. Il y aurait peut-être, dans les 3 cas, il y a du travail qui peut être fait pour améliorer ça. Avec un préparateur mental, avec un psychologue sportif. Donc, c'est vraiment pas... on n'est pas comme ça, là. Ben, c'est-à-dire, on peut naître avec des prédispositions, mais c'est toujours possible de s'améliorer.
Mettons qu'on se transporte dans le concret. Moi, je suis recruteur, exemple, d'une équipe de hockey, et là, ben, je regarde des matchs, puis là, je dois choisir qui j'aimerais repêcher, prochain repêchage, puis moi, dans mon équipe, j'en veux pas de choker. Comment on fait pour déterminer si un joueur est un choker?
Oui. Ben, premièrement, je dirais à ça, étant donné que c'est quelque chose qu'on peut améliorer puis que les joueurs sont entourés de préparateurs mentaux et de psychologues sportifs, j'aurais tendance à pas trop me fier là-dessus pour le repêchage parce qu'on a du temps pour développer le joueur. Mais lorsque c'est le temps de, par exemple, mon équipe est faite, puis là, je veux savoir à qui donner plus de glace, dans des moments importants ou à qui donner plus de soutien, là, ça devient encore plus pertinent. Ce que j'ai fait, moi, dans le cadre de l'étude qu'on a menée, C'était simplement une mesure par questionnaire, où est-ce qu'on mesurait les stratégies d'adaptation de l'athlète, son niveau d'anxiété, son niveau de conscience de soi, à quel point il s'observe durant des situations stressantes puis il focus sur lui-même. C'est une mesure qui peut prendre entre 5 et 10 minutes, qui peut se répondre par téléphone ou papier, donc c'est super facile à faire. C'est facile de mesurer un grand nombre d'athlètes aussi en peu de temps et analyser le tout. Une fois que j'arrive sur mon ordinateur puis je calcule les résultats, ben ça me donne un score de susceptibilité à s'écrouler sous la pression. La pression peut donner du feedback au personnel d'entraîneur pour les orienter.
Parfait. Et là, ce score-là, comment qu'on le calcule? Est-ce que c'est parce que d'habitude, je lance sur le filet 5 fois sur 6, puis là, je frappe le filet seulement 3 fois sur 6?
Ça, c'est vraiment la partie, je vous dirais, au hockey qui est très dure. Parce que la mesure de la performance au hockey, on peut faire dire pas ce qu'on veut, mais un peu ce qu'on veut aux statistiques. Il y a beaucoup de statistiques, le jeu se passe rapidement. Puis aussi, nos statistiques vont changer par rapport à l'opposition auquel on fait face. Mm-hmm. Ça peut changer. C'est pas un sport comme le baseball où est-ce qu'on est fixe contre
un. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est plus facile, justement, que le baseball, de savoir, bon, ben, je frappe normalement pour une moyenne de 300, mais là, quand il y a des coureurs en position de marquer, je viens frapper seulement pour 150.
C'est ça, exactement. Des sports comme le golf, le baseball,
le tennis,
même
j'imagine.
Le basket, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de contact physique aussi. Au hockey, on est encore en train de travailler sur la mesure. Présentement, ce qu'on fait, c'est un agrégat de statistiques avancées qu'on met ensemble et qui nous définissent un genre de score de performance globale. Mais on est vraiment à essayer de préciser tout ça, là.
Sentez-vous que les équipes professionnelles de sport n'auront pas le choix de commencer à s'intéresser à ce genre de calcul-là, puis tout sport confondu. Là, on disait que le hockey, c'est pas nécessairement peut-être le sport dans lequel c'est le plus applicable, mais en général, sentez-vous qu'on s'en va vraiment là-dedans dans les sports professionnels?
Ah oui, oui, oui. Il y a plusieurs équipes, par exemple la Ligue junior majeure du Québec, présentement, qui ont des préparateurs mentaux qui s'intéressent à ça. Beaucoup d'équipes aussi dans le sport professionnel. Cependant, jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus des mesures qui sont faites au niveau clinique. Donc, on ne compile pas les résultats. Puis ça nous empêche de faire avancer la science sur ce sujet-là. Moi, ce que je vais apporter, c'est plus un regard scientifique. On sort un peu du domaine clinique, puis on essaie de vraiment mesurer le concept, puis après ça, de voir qu'est-ce qui peut l'influencer.
Donc, vous travaillez plus en prévention qu'en action avec votre étude, qui fait en sorte que, avec les données que vous allez avoir, là, on va pouvoir poser le bon diagnostic et ainsi faire le bon traitement.
Exactement, exactement. Mais j'ai un autre corde à mon arc. Là, je suis aussi préparateur mental, donc je suis aussi sur le terrain pour essayer des solutions de façon clinique aussi.
L'avez-vous essayé justement avec des jeunes que vous avez répertoriés, de dire après ça, je fais une approche clinique et vous avez calculé le résultat après qui est en amélioration?
Oui, je l'ai fait pour m'amuser. C'est sûr que j'ai encore un nombre d'athlètes qui est insuffisant là, pour avoir des conclusions scientifiques, là, mais ce que je peux dire, c'est que en agissant sur les facteurs qui influencent le choking, ben on semble avoir des bons résultats, oui.
Sentez-vous que le genre de modèle là, que vous avez entre les mains présentement peut évoluer encore pas mal? T'sais, on parle beaucoup, je sais pas, d'intelligence artificielle, par exemple, dans tous les domaines. Sentez-vous que c'est le genre de modèle où l'intelligence artificielle pourrait venir jouer un rôle intéressant?
Ah, clairement. Clairement. S'il y a de quoi que je souhaite à tous les matins, c'est de me réveiller avec des habiletés pour diriger l'intelligence artificielle. Ça m'aiderait terriblement à vie à tous. Là. Ça m'aiderait terriblement d'avoir quelqu'un qui serait calé là-dedans pour m'aider dans mes recherches. Oui, surtout lorsqu'un nombre de joueurs est vraiment élevé, là, l'intelligence artificielle vient me faire sauver beaucoup de temps. Puis peut venir aussi nous aider à orienter nos interventions. Là. Fait que oui, il y a beaucoup de choses qui sont à faire dans ce domaine-là. C'était la première étude de probablement plusieurs. Et je suis intéressé à travailler à n'importe qui, justement, qui veut améliorer les performances mentales des jeunes athlètes.
Quelles vont être vos prochaines étapes, justement, pour vous rendre à avoir des données encore plus concrètes?
Ah, ben c'est vraiment de suivre des équipes élites. Présentement, je commence une collaboration avec une équipe de la Ligue junior majeure du Québec. Je travaille un peu aussi avec Hockey Québec. Et je suis impliqué vraiment dans ma région là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec plusieurs organisations. Puis tout le monde est très, très ouvert là, sur ce sujet-là. Donc, dans les deux prochaines années, il devrait y avoir quand même des développements qui se font au niveau de la prévention du choking.
Vincent Huard-Pelletier, merci infiniment pour votre temps ce matin. Merci d'avoir répondu à cet appel matinal. Et on va continuer à suivre vos travaux avec énormément d'attention. On est des grands fans de sport ici à Boulevard et on souhaite le mieux pour tous les athlètes.
Merci beaucoup de l'invitation.
Ça fait plaisir. Bye bye. On se reparle bientôt. Merci. Alors, c'était Vincent Huard-Pelletier, chercheur québécois dans le domaine sportif, travaille également à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui se penche sur le phénomène du choking dans le sport, donc c'est-à-dire s'écrouler sous la pression. Intéressant comme démarche.
Ben, c'est vraiment intéressant parce que, en étant moi surtout un fan de hockey, c'est tellement vrai ce qu'il dit que
ben oui.
Hockey, il y a tellement de facteurs, fait que ça s'applique peut-être un peu moins.
C'est
alors
plus dur.
Que un domaine comme le baseball, puis ton exemple t'es bon, tu frappes pour
300
tel taux, et là après ça, quand t'es dans une situation
ben oui.
où t'as des possibilités d'envoyer des coureurs marquer des points, ben là, tu frappes pour pas mal moins. Ça se calcule facilement. Alors qu'au hockey, puis je dis ça en tant que gars qui a déjà passé beaucoup de temps à regarder des matchs d'espoir qui allaient être repêchés dans LNH, puis faire des classements de prospects, puis tout ça, c'est beaucoup une question de feeling. Tu sais, t'as le feeling, t'as le sentiment que lui va mieux s'adapter à la NH. Puis, OK, oui, il est moins rapide, mais qu'il pourrait.
Ouais, puis on entend toujours parler du fameux « Ah, son plafond n'est pas
oui.
encore atteint. » Puis, mais tu sais, c'est quoi
alors,
le plafond?
Ben, exact. Alors que tout ce que tu regardes en bout de ligne, c'est un joueur sur une patinoire où il y a 10 joueurs qui essayent de se débrouiller du mieux qu'ils peuvent dans un certain système. Tu sais pas ce qui arriverait dans un autre système. Tu essaies de le projeter à un autre niveau. Tu sais pas comment ça va marcher à un autre niveau, tout est différent à tellement de
tellement raison.
Sur tellement d'aspects, alors que dans bien d'autres sports, ben tu changes de niveau. Puis je trouve que le baseball est vraiment l'exemple le plus flagrant de ça. Puis ça explique un peu le succès de le film Moneyball. Là.
Oui, avec Brad Pitt.
Où là,
exactement, où on a joué sur les statistiques avancées.
Exact. Parce que le baseball, je pense, tu peux te permettre de faire ça. Dans le hockey, là, on a vu à un moment donné, je pense que c'était le GM des Coyotes
d'Arizona.
Oui, qui l'avait essayé,
Chayka,
ça n'a pas fonctionné.
Chayka,
ouais,
je pense.
Ça n'avait pas bien fonctionné.
Il y en a beaucoup qui ont essayé dans les dernières années de nous pousser ça dans la gorge, les fameuses statistiques avancées. Puis il y en a des intéressantes, là. Puis je me souviens beaucoup, c'était qui qu'on le faisait? Je pense que c'était Kotkaniemi. Qu'on le faisait pas mal pour nous dire à quel point. Non, mais c'est parce que vous comprenez pas. Regardez les statistiques avancées de Kotkaniemi. Non. Il était pourri, Kotkaniemi, là. Mais on réussissait à aller chercher des statistiques avancées. Puis on sait, on peut faire du n'importe quoi aux chiffres.
Au baseball, maintenant, il y a une statistique qui est le OPS. Et ça regroupe justement ta moyenne de puissance, ta moyenne de présence sur les buts, ta moyenne de coup sûr. Alors, c'est une statistique vraiment fiable qui fait en sorte que ce calcul mathématique-là, si tu as 750 et plus, tu es considéré comme un bon joueur.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est du concret. Tu as atteint les buts.
Exact.
Là, donc, il n'y a pas de... Ah, j'ai patiné en zone libre avec la rondelle et j'ai réussi à feinter un joueur. Là.
Non, c'est ça. Fait que lâche-moi que les statistiques avancées dans le hockey, surtout quand c'est... Moi, en fait, les statistiques avancées, je trouve ça très intéressant si tu es capable de l'appuyer aussi avec le fameux, je pense qu'on appelle ça le eye test. Parce que pour moi, le hockey, c'est ça. Tu peux regarder les stats. Là. Si tu n'as pas regardé la game... T'as aucune idée de ce qui s'est passé. Je pense que baseball, tu peux voir les stats sans avoir vu la game, puis tu sais si un gars a eu un bon match ou pas. Un peu comme un gardien de but, tu sais, au hockey.
Ouais, moyenne d'efficacité.
Moyenne d'efficacité, ça peut être des 3 contre 0, puis il se fait scorer 5
en
buts
effet.
À 3 contre 0. Puis là, de l'autre bord de la glace, t'as un goaler qui peut avoir accordé 3 buts, mais sous des tirs de la bleue, pas de circulation.
Loin, en effet, donc c'est plus complexe, tu as entièrement raison là-dessus.
Mais tout ça étant dit, je trouve ça très intéressant qu'on puisse maintenant essayer vraiment de calculer le choking. Puis je pense qu'il y a une façon de l'intégrer, ça, dans le hockey.
Non, vraiment. On s'en va en musique avec un artiste qui va être justement au festival Saint-Roch XP. Ça va se passer vendredi le 5 septembre à 22h30 au Grizzly Fuzz, un de mes artistes préférés, Jérôme 50, au Québec City. Et par la suite, ça donne bien, on va justement parler de ce festival Saint-Roch XP.